Lecteur d'Asie, la petite pastille estivale de mes lectures pour le prix littéraire du Musée Guimet. Yak sauvage Rinpoché portait sur l'arête du nez des lunettes en verre de cristal fumé et à l'annulaire gauche une bague en or incrustée d'une agate. Il était toujours vêtu d'un complet chinois marron et par temps froid, d'une pelisse rouge foncé bordée de lynx jetée sur le dos. À première vue, il aurait pu passer pour un homme d'affaires riche et frustre. À bien l'examiner toutefois, ses cheveux très courts, le col visible de son maillot jaune en coton et un chapelet sans apprêt enroulé à son poignet gauche, ainsi que d'autres éléments, permettaient à une personne ne serait-ce que vaguement familière du Tibet de comprendre clairement qu'il faisait partie des lamas et des maîtres réincarnés dont les vœux et les engagements tantriques avaient connu dans ces années, à trembler de peur, le sort des nœuds défaits d'un serpent ou d'une bouteille de bière décapsulée. À présent, Yak Sauvage Rinpoché avait une compagne tantrique, deux maîtresses, trois enfants, dont un garçon, un monastère, 240 et un moine, dont 52 défroqués, et 26 300 et quelques fidèles. Il y avait de nombreuses années de cela, il était passé sans comprendre ce qui lui arrivait de l'état de petit bouvier morveux, une cordelette en guise de ceinture, à celui de moignon prétentieux vêtu de l'habit de maître religieux. Peu après, il avait été reçu au monastère de Tseung parmi les mélodies des instruments à vent et des percussions et les effluves d'encens et avait été investi de pouvoir sur le trône léonin aux cinq visages. Quand par la suite il y repensait, la plupart des événements de cette journée-là lui apparaissaient au mieux comme un rêve très flou. Les drapeaux rouges flottaient dans la tempête rouge et les haut-parleurs diffusaient sans répit toutes sortes de slogans à vous transpercer les tympans. C'était encore plus effarant que la prison. Yak Sauvage Rinpoché, sans que sa bouche ait pu toucher un seul bol de toubka, s'en retourna en prison. Là, la nourriture persistait à n'être ni fameuse ni nourrissante. Mais contrairement à 8 ou 9 ans plus tôt, on ne passait pas son temps à avoir faim et soif pendant le sommeil, et faim et soif au réveil. Qui plus est, les travaux de force n'étaient plus aussi durs et on pouvait s'en tirer en se contentant de faire mine d'aimer Mao Zedong. Si bien que plus de 10 ans passèrent en un instant et le parti et l'État mirent toutes les erreurs du passé sur la tête de Ling Biao et de la bande des quatre. En même temps qu'on remettait à chaque individu 2 briques de thé et que les valets se remplissaient de déclarations sur les perspectives radieuses du futur, les prisonniers politiques et les manœuvres spécialisées furent tous libérés. Nombreux furent ceux qui exprimèrent d'un seul coup 20 ans de lamentation, versèrent d'un seul coup 20 ans de larmes et abandonnèrent les 2 briques de thé comme on le fait de galets pour s'essuyer le derrière. Misère. Plus de 20 ans de faim, de soif, d'épuisement, de sévices, de maltraitance. 2 briques de thé peuvent-elles compenser tout ça? Yak Sauvage Rinpoché ne savait pas s'il devait être heureux ou triste. En tout cas, quand il se mit en route, sans avoir osé abandonner ses 2 briques de thé, Lobsang Tsultrin, qui plus de 20 ans auparavant lui avait fait subir des séances de lutte au point de le transformer en un puant incapable de se tenir debout, puis qui lui avait fait boire de l'urine, ne se contenta pas de venir l'accueillir une kata à la main. Il lui apporta en plus une peau d'agneau bordeaux, un maillot de corps jaune et une paire de chaussures. Très touché, Yak Sauvage Rinpoché se mit en route aussitôt, sans aucune envie de repenser à toutes ces histoires vieilles de plus de 20 ans. Alors qu'il franchissait le pont sur le fleuve, qui autrefois avait été bleu comme une turquoise et transparent comme un cristal, qui avait dissipé la douleur de la soif de dizaines de milliers de prisonniers et avait englouti les cadavres de dizaines de milliers de prisonniers, il vit que son cours désormais stagnait. Il était devenu rouge, comme s'il avait absorbé le sang de dizaines de milliers d'êtres humains. Yaksovage Rinpoche hurla : Cadre des prisons et prisonniers de droit commun, continuez donc à manger de la chair humaine et à boire du sang humain. Écoutez la première et la dernière page de Tempête rouge de l'auteur tibétain Tserin Dondrup, publié en 2019 aux éditions Piquet. Alors, lire Tempête rouge, c'est se confronter à un texte difficile, mais d'une puissance rare. Difficile car, sans aucun chapitre, écrit d'un seul tenant, Tserin Dondrup fait virevolter au sein même de ses paragraphes, non chronologiques, 20 ans d'histoire chinoise de 1958 à 1976. Mais passé ces difficultés, c'est un texte fort qui s'offre à nous, un roman qui décrit avec ses atrocités la révolte dans la province tibétaine de Lamdo en 1958 et toutes ses conséquences funestes, camp de travail, famine, torture, exécution. Cette révolte n'a laissé presque aucune trace historiographique en Chine et les rares témoins survivants disparaissent sans avoir parlé. C'est donc contre ces tentatives d'effacement que Tserin Dondrup, célèbre auteur tibétain et ancien archiviste, prit la plume. Le livre fut un grand succès au Tibet en 2006, malgré la censure, mais c'est la publication aux États-Unis à Hong Kong de l'ouvrage qui interdit désormais à l'auteur de quitter la Chine et de recevoir tout prix littéraire. Il faut donc lire Tempête rouge pour ne pas oublier cette page de l'histoire chinoise, mais surtout pour découvrir un récit ne manquant absolument pas d'audace, puisque son héros, son anti-héros devrais-je dire, le lama Yaksovage Rinpoche, fera preuve parfois de compromission et de lâcheté au détriment de ses propres fidèles. Le manichéisme est également absent, puisque frappe les tragédies du grand bond en avant et de la révolution culturelle, les bourreaux devenant alors victimes de la famine ou des exécutions sommaires. Enfin, il faut saluer tout le travail de traduction de Françoise Robin, professeure de tibétain à l'INALCO, et qui a rédigé la très riche et intéressante préface du livre. Bref, Tempête rouge, un livre dur, âpre, mais un grand livre. À vendredi prochain pour une nouvelle lecture d'Asie. Bon été, bonne lecture et à bientôt.